D'abord, je voudrais qu'on demande à l'Esprit d'être présent avec nous ce matin pour nous éclairer. Esprit Saint, éclaire-nous dans ce passage-là pour essayer de le comprendre, essayer de l'assimiler dans nos cœurs. Enlève tout ce qui n'est pas de toi d'ici, Seigneur. Fais en sorte que tout esprit de contradiction, Seigneur, que tout esprit de division s'en aille, parce qu'on est ici pour vivre en communion, Seigneur, avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Parce que précisément, ce qui guette la communauté ici, des disciples de Jésus, c'est cette division-là. Et les gens commencent à dire, « Veux-tu qu'on fasse quelque chose? Veux-tu qu'on brûle ce village-là qui t'a porté offense? » Et puis là, la division pourrait arriver. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette option-là, évidemment. On va voir d'abord ce passage-là, puis voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Jésus est plutôt, généralement, on va parler d'accueil, d'hospitalité. Ça m'est déjà arrivé d'en parler à quelques reprises ici. On a vu qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de ça. Jésus invite à cette hospitalité-là, à accueillir l'autre. Et puis ici, il y a une réaction un peu contraire ou autre, disons. Jésus comprend celui qui ne veut pas offrir l'hospitalité. Et il y a des raisons à ça. On va juste voir au départ là, quelques petites notions techniques pour pouvoir bien saisir ce que le texte veut dire, et ensuite on va l'atterrir dans notre réalité. Bon, d'abord, les Samaritains. Qui sont ces Samaritains-là? Les Samaritains, c'est des Juifs qui ont été mélangés, qui ont été métissés avec des Assyriens. Juste un peu avant l'exil à Babylone, le roi d'Assyrie avait envoyé des Babyloniens, Assyriens, des gens des territoires qu'il avait déjà conquis, pour aller peupler Israël. Une façon un peu d'avoir une influence dans la culture locale. Mais ces gens-là arrivaient avec leur religion, avec leur façon de faire, et puis il y avait une règle quand même dans l'Empire assyrien, c'est qu'il fallait respecter les cultures religieuses de l'endroit, parce qu'on considérait à ce moment-là que chaque dieu avait son territoire. On parle de petites divinités, évidemment. Donc, on se disait, en Israël, il y a un dieu pour Israël, et c'est important que les gens respectent ce dieu-là s'ils veulent des bonnes récoltes, s'ils veulent une bonne vie. Et puis, bien évidemment, en ayant d'autres cultures qui s'approchent, les choses changent un peu. Chacun a une compréhension de son Dieu, veut bien respecter celui qui est là, mais il n'y a aucune idée de quoi il s'agit. Donc, le roi assyrien avait envoyé des prêtres qui étaient à Babylone pour qu'ils viennent enseigner les nouveaux venus sur la foi d'Israël, et qui comprennent et assimilent ce Dieu-là. Évidemment, chacun teignant sa foi avec son bagage d'origine. Et puis là, il y a une construction religieuse, une compréhension de Dieu qui en est venue à travers ça. Et puis ensuite, il y a eu l'exil, et après l'exil, les gens d'Israël ont voulu revenir en Israël. Il faut comprendre aussi qu'en 70 ans, à l'époque, ça veut dire à peu près 4 générations. Souvent, même les gens qui retournaient en Israël, les Israéliens qui avaient été déportés et qui retournaient en Israël, ce n'est pas les mêmes. C'est les petits-enfants de ceux qui ont été, même, je dis les petits-enfants, ce n'est pas vrai, c'est les arrière-petits-enfants et parfois les arrière-arrière-petits-enfants qui retournaient en Israël. Beaucoup avaient perdu la langue hébraïque. On parlait déjà la langue qui se parlait à Babylone. Et puis, il se passe que quand les gens reviennent d'Israël, d'exil en Israël, là, les leaders des communautés exilées disent à leurs gens, « Ne vous mariez pas avec ceux qui sont restés en Israël. » Pour lire là-dessus, vous pouvez lire le livre complet de Néhémie et de Esdras qui parle de ça. On trouve ça sévère et dur, hein, contre le métissage, surtout dans notre cas ici, surtout dans mon cas, Je ne trouve pas ça correct, mais bon. Et puis, bon, avec une série de raisons, évidemment, il ne faut pas se mélanger, il faut conserver notre foi, parce qu'il faut bien comprendre que le judaïsme qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas le judaïsme des Hébreux du temps de Moïse, mais bien ceux des Hébreux ou des Israéliens du temps de l'exil. Et puis ensuite, ce judaïsme-là a évolué et puis est devenu ce qui est devenu. Mais c'est tout ce qui s'est forgé à cette époque-là qu'on a retenu, qui fait partie de ce qu'on appelle la Torah, qu'on a conservé dans l'Ancien Testament. C'est souvent des textes qui ont été soit écrits pendant l'exil ou après l'exil, qui peuvent rapporter des faits qui sont arrivés avant, mais qui ont été écrits à partir de cette expérience d'exilé-là. Et les gens ont lutté fort pendant l'exil pour conserver leur culture, et ils reviennent dans leur pays d'origine et ils voient que cette culture-là est devenue autre chose. Juste pour avoir passé 10 ans à l'extérieur du Québec, quand je suis revenu, juste 10 ans, je ne parle pas de 70 ans, et puis les choses avaient énormément changé. Le Québec avait pris une nouvelle tangente. Moi, j'étais devenu autre chose aussi parce qu'influencé par une autre culture. Et puis cette rencontre-là n'est pas facile. Et ces gens-là ont refusé, ceux qui revenaient d'exil, de faire peuple de Dieu ensemble avec les Samaritains. Ce qu'ils ont très mal pris. Et ça a causé des tensions tout au long de l'histoire qui sont encore présentes au temps de Jésus. Donc, Jésus qui s'en va, qui marche vers Jérusalem, ça réveille une vieille histoire pour les Samaritains, parce que ces Juifs-là qui étaient en exil et qui marchaient vers Jérusalem ont refusé de les prendre avec eux pour former un peuple ensemble. Jésus leur rappelle ça. Tu vas à Jérusalem, tu es avec ce gang-là, restons pas ici ce soir. Et on ne lui souhaite pas la bienvenue. On ne l'accueille pas et puis Jésus comprend cette situation-là et préfère ne pas créer une division. On a à développer une unité, on a à développer une communion avec ces Samaritains-là, mais ça va se faire autrement. Il va parler des Samaritains dans ses paraboles, il va guérir des lépreux et souligner le fait qu'un lépreux samaritain est le seul qui a reconnu que Dieu était Dieu, que c'est par Dieu qu'il a été guéri. Sa relation avec la femme samaritaine aussi, pleine de rédemption et d'ouverture. Donc, ce travail-là va se faire petit à petit, et éventuellement, il y aura même un apôtre qui sera chargé de la conversion, de diffuser la parole, d'évangéliser Samarie, Philippe. Donc, il est conscient de cette tension-là. Oui, on va créer l'unité, oui, on va développer la communion entre nos peuples, mais ça va se faire de façon harmonieuse, sans créer des chocs inutiles. On est dans ce contexte-là. Aujourd'hui, le titre du propos qu'on va tenir, c'est un peu la suite de ce que Marc avait déjà abordé. Puis c'est en parlant avec Marc, justement, qu'on en est convenu de réaborder ça, peut-être sous un autre angle ou en continu. L'inconfort, moteur humain de la grâce de Dieu. Parce que nos inconforts ne sont pas des accidents de parcours. Nos inconforts ne sont pas toujours que des provocations de l'ennemi. Nos inconforts sont aussi des moments de déséquilibre qui nous permettent d'avancer. Quand on marche, on est en constant déséquilibre et c'est ce qui nous permet d'avancer. L'inconfort, c'est ça. Un peu comme marcher est inconfortable. On est toujours en train de tomber finalement et on s'empêche toujours de tomber. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est ce qu'on fait comme chrétien. C'est ce qu'on fait comme Église, et c'est ce que nous permet cet inconfort-là. Donc, Jésus, lui, a vécu, évidemment, avec ses disciples, une situation très inconfortable, parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable qu'un refus. On arrive quelque part, on ne veut pas de nous, on se sent un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles, on ne sait pas trop où se mettre. Ici, la réponse à l'inconfort était clairement de partir parce qu'il n'y avait pas non plus l'intention de rester là. C'était un lieu de passage. Donc, on ne provoquera pas de dissension, on ne provoquera pas d'irritant pour rien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Fuir, ce n'est pas une solution à l'inconfort. Avancer, oui, mais pas fuir. Il faut distinguer, il faut discerner les deux. Parce que non plus, il ne faut pas dire « on va rester, même si c'est inconfortable », et essayer de s'accommoder de cet inconfort-là. Non. J'ai toujours un petit peu de difficulté avec le concept de résilience. On accepte les choses telles qu'elles sont, puis on essaie de faire avec. Et ça ne peut pas être comme ça. Imaginez-vous si ça avait été comme ça dans l'histoire d'Israël, où on essaie de s'accommoder des inconforts. Imaginez-vous si Moïse et le peuple hébreu avaient dit, « Bien, dans le fond, hein, on peut toffer l'esclavage encore un autre 400 ans, puis un autre 1000 ans, puis pas trop bouger de là, parce qu'il y a quand même des avantages à être esclave. Ça fait qu'on va essayer de faire avec, puis de comprendre nos oppresseurs. » Imaginez s'ils s'étaient dit ça. L'inconfort, à un moment donné, il faut aussi en sortir. Sauf qu'il faut être conscient qu'on va rentrer dans un autre inconfort. Parce que ce n'est pas le fun de passer 40 ans dans le désert. Parce que ce n'est pas très commode non plus et pas très bon pour l'agriculture passer 40 ans dans le désert. Plutôt inconfortable. Ça veut dire des famines, ça veut dire des soifs. Ça veut dire aussi des tensions sur ce qu'on va faire parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Où les gens auront à se confronter, à débattre ensemble, à trouver des solutions ensemble. Et ça, c'est particulièrement inconfortable. Et puis c'est ça aussi. Quand on passe d'une situation inconfortable pour chercher quelque chose de plus commode, de plus adéquat, de plus aisant, on va souvent se retrouver dans quelque chose de plus inconfortable ou d'encore aussi inconfortable. La solution de dire « je me sens pas tout à fait bien dans mon église, je vais dans une autre église », c'est sûr qu'au début, le gazon est toujours plus vert chez le voisin. On se dit souvent ça des fois dans d'autres situations, hein? Les tensions vont mal avec notre femme, avec notre mari. Puis là, il y a quelqu'un qui est donc fin puis qui nous comprend donc. Puis on se dit, c'est peut-être plus là que je devrais aller. Et ce n'est pas nécessairement la solution. Ou plutôt, c'est nécessairement pas la solution. Donc, il y a des choses qu'il faut aussi combattre, affronter de l'intérieur, mais qui vont provoquer des inconforts constamment. Pour sortir de l'inconfort, on est souvent poussé à prendre des décisions radicales. Quand on parle d'un couple, par exemple, ça veut dire ce qui a suscité le problème, l'identifier, ce qui n'est pas toujours rose et agréable, parce que ça ressasse des affaires en nous, et puis dire « je ne continue plus là-dedans ». Et ça, c'est difficile. C'est aussi très inconfortable d'avoir à se confronter avec ses propres fautes et ses propres péchés constamment. C'est particulièrement inconfortable. Et c'est ce que ça veut dire, continuer. Quand il y a des tensions dans une église, puis qu'on décide de continuer dans cette église-là, évidemment, il faut reconnaître notre part de responsabilité, puis il faut se remettre en question. C'est pas très agréable, c'est comme ça qu'on avance. Puis, il y a toujours un moment donné où un autre nous remet d'en face nos difficultés. Et il y a toujours un moment donné où on n'a même pas besoin des autres pour se rendre compte qu'on a des difficultés. Donc, on se retrouve encore dans de l'inconfort et on continue. Je prenais l'exemple de Moïse. Il n'y a pas que l'exemple de Moïse non plus dans l'Ancien Testament. On a aussi Abraham. Abraham n'est pas très confortable. Toute sa famille n'était pas très confortable à Our, ils sont partis à Haran. On ne dit pas pourquoi ils sont inconfortables à Our, mais on ne part jamais d'un endroit parce qu'on s'y sent bien et que tout va bien. On part vers Haran. Là, on sait un peu pourquoi Abraham est inconfortable. Son père fabrique des idoles, des statuettes pour les dieux de l'endroit. Donc, il part. Décision difficile à prendre. Et c'est assez radical parce qu'il part sans savoir exactement là où il va. Il suit ce que le Seigneur lui dit. Il va là où le Seigneur lui dit d'aller et aussitôt qu'il arrive à l'endroit que le Seigneur lui a dit d'aller, il monte un autel puis ah ouais, on repart en Égypte. Et il passe sa vie en déplacement. Il n'arrive jamais, comme dit Hébreu, il n'arrive jamais vraiment à posséder cette terre promise-là. Il la voit de loin. Et de ça, il en est satisfait. Et ce n'est pas une résilience, ce n'est pas une soumission à la situation. Il a toujours cherché à la transformer, cette situation-là, sachant qu'il y a juste un endroit où on sera complètement confortable, c'est dans le royaume des cieux. Et c'est ce qu'on cherche toute notre vie. Mais en le cherchant sincèrement, en étant constamment dans ces déséquilibres-là, dans ces inconforts-là, on est en train de toucher aussi le royaume de Dieu. Parce qu'on le construit. Et ça, c'est ce que je trouve extraordinaire avec le Seigneur. C'est qu'il ne nous propose pas quelque chose qui va être cacheté sur nous et qu'on n'aura qu'à consommer allègrement. On a à y participer, à y construire. Il sert de nos intelligences, de nos capacités, de notre créativité pour participer à la construction du royaume de Dieu à partir de maintenant. Il y a quelque chose de prévu, il y a quelque chose qui est là pour nous. Mais ça ne se construit pas de façon indépendante de notre vie dans le monde. On est en train de le construire. Il y a un lien entre les deux. Et ça, c'est important à saisir parce que sinon, on se dirait, bien, aussi bien mourir tout de suite, puis on se retrouve dans le royaume de Dieu, puis tout est réglé. On a évité les inconfortabilités et les souffrances. Mais non, parce que c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on se construit comme être humain, dans ce déséquilibre constant-là. Là, j'en parle comme c'est assimilé, hein? J'ai compris ça, puis tout va bien, je fais ça dans ma vie, dans le déséquilibre, et je continue avec beaucoup d'enthousiasme, puis c'est pas de même que ça marche, je vous l'assure. Justement, ces jours-ci, je dis exactement le contraire à moi-même, puis je me retrouve à devoir parler de la parole de Dieu, puis de dire le contraire de ce que je suis en train de faire. Ça m'oblige à me corriger. La dynamique de l'inconfort, bon, un peu ce que j'avais entamé tout à l'heure, cette dynamique-là est une dynamique de constant déséquilibre. Le fait de ne pas se sentir confortable, mais toujours chercher un confort en étant conscient qu'on ne trouvera jamais dans sa plénitude, c'est ce qui nous permet justement une créativité, c'est ce qui nous permet de construire quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose de nouveau auquel on est appelé, auquel on est obligé aussi de se référer, qu'on est obligé de construire dans nos cœurs et dans nos mentalités. On ne peut pas en rester là où on est. C'est vrai pour nos vies personnelles, c'est vrai pour une société, c'est vrai pour une église. On a à construire constamment. Donc, l'échec, l'inconfort va susciter la recherche du confort. Mais pas une recherche de confort pour dire on reste ici sur Terre, puis on va trouver une façon de ne pas se faire achaler plus que ça, sans trop bouger, non. Parce que quand on va bouger, évidemment, ça va susciter un autre inconfort. Quand on va prendre des décisions, ça va susciter un autre inconfort. Et puis si on n'est pas conscient qu'on est dans une chaîne constante qui déboule, une chaîne d'inconfort comme ça, on devient très, très vite frustré et très, très vite amer. Parce qu'on se dit, la vie ne nous donne pas ce qu'elle aurait dû nous donner. Ça arrive toujours de temps en temps dans nos vies où on se dit ça. Si la vie m'écoutait et que ça irait pas bien finalement. Mais on a un peu cette conviction-là. Je sais ce qui est bon pour moi, j'avance. Puis pourquoi ça ne se passe pas comme ça devrait se passer? Il faut voir aussi comment se vivent les situations qu'on recherche de confort. Je me suis souvent pris, épié, à prier des choses assez bizarres en demandant justement ce confort-là. Donne-moi de la stabilité, Seigneur. Et quand j'y pense, puis que j'essaie de nommer la stabilité que je souhaite, je ne suis pas capable d'être très clair sur la stabilité ou sur le bien-être que je souhaite. Puis là, je me mets à faire des réflexions intellectuelles, à tergiverser un peu, à nuancer, puis pour finalement dire, tu sais ce que je veux dire, parce que dans le fond, c'est toi, Seigneur, qui sais ce qui est bon pour moi. J'ai encore de la misère à l'identifier. Mais notre recherche de confort, comme ça établi, bien structuré, souffre et carent d'une bonne définition de ce que c'est. Parce qu'il y en a juste un confort absolu, qui est le royaume des cieux. Le reste, c'est ce qu'on s'imagine être un confort. Mais si on prend l'exemple d'églises très confortables, là où les gens se sentent bien entre eux, là où on ne parle qu'une seule langue, où il n'y a qu'une génération, là où on ne change pas les chants depuis 1850, Puis là où le slogan de l'Église est probablement « Pourquoi on changerait? Ça a toujours marché comme ça. » Il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas d'immigration non plus dans cette Église-là. Il n'y a pas de croissance, il y a plutôt même une décroissance, parce qu'après un certain nombre d'années, évidemment, la même génération tend à disparaître. Et puis là, l'esprit ne bouge plus. C'est que cette situation d'inconfort et de déséquilibre-là est l'endroit précis où l'esprit bouge en nous. Si on n'a pas d'abord en nous-mêmes un manque d'amour, l'esprit n'aurait pas besoin de souffler en nous. C'est parce qu'il y a un manque d'amour envers les autres, envers soi-même, envers notre communauté, qui fait en sorte que l'esprit doit souffler et souffle. L'esprit occupe un vide. Nos manques, c'est l'endroit, c'est l'espace que va occuper l'Esprit Saint en nous, dans la mesure où on l'invite. Mais évidemment, comme on ne peut pas identifier exactement ce qui est bon pour nous et ce qui est une situation véritablement confortable, on l'apprend à mesure que l'Esprit entre en nous et qu'il souffle en nous. Ce souffle-là est un mouvement en soi et va nous pousser nécessairement à agir, à bouger, à faire des mouvements. Puis on va dire, wow, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Des choses très inconfortables. L'Esprit peut nous pousser à évangéliser et on se retrouve à frapper à la porte de quelqu'un et on se sent dans une situation très inconfortable. Parler de Dieu à un Québécois athée, boomer, prof de sociologie à l'UQAM. À moins qu'on cherche la tension et l'affrontement, ce qui des fois est agréable quand même, surtout quand on est avec le Seigneur, c'est plutôt inconfortable. Mais ça fait partie aussi de la tâche. Et puis, il y a des situations inconfortables parce que nous, on s'imagine qu'elles sont inconfortables. On a le petit exemple, la petite anecdote là-dessus, c'est ce qu'on a expérimenté cet été avec les travailleurs immigrants agricoles, où moi, en bon Québécois, j'ai toujours un petit peu peur de trop parler de Dieu parce que, bon, il faut faire attention. Et des fois, je suis bien justifié de le faire, mais pas toujours. Et puis là, avec les travailleurs agricoles, c'est exactement l'inverse. Moi, j'étais un peu le pied sur le frein, qui tournait le volant à gauche. Catherine était un peu le pied sur l'accélérateur. Il était pesant par ça. Et le volant qui tournait de l'autre côté. Et puis, ça ne fait pas nécessairement un équilibre. Il faut se retirer, se parler un peu, puis y aller. Et puis, de fait, pour finalement me rendre compte, quand on approche les travailleurs agricoles et qu'on leur parle du Seigneur, c'est là où les tensions vont s'apaiser. C'est là où, on va s'ouvrir. Tiens donc, OK. Et puis, on a été accueillis. Moi, personnellement, j'ai souvent été accueilli, bien accueilli, parce que j'ai commencé à parler de Dieu. Donc, l'idée que je m'étais fait de ce qui pouvait être inconfortable ou confortable était tout à fait fausse dans ce cas précis-là. Parce que les choses changent selon les situations. Ce n'est pas de relativiser les choses, c'est tout simplement d'incarner notre évangélisation, d'incarner notre parole, d'incarner la parole de Dieu à travers nous dans les actions qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on doit se revoir, toujours se remettre en question et toujours se trouver dans des situations inconfortables. Et c'est l'Esprit qui nous tient là-dedans, qui nous pousse à faire ça et qui va nous maintenir aussi là-dedans. Mais cet élan-là est constant. La façon qu'on conçoit d'être confortable est tout simplement de ne pas avancer. Fait qu'on est sûr qu'il n'y a pas de peur à avoir. Mais quand l'Esprit est en nous, nécessairement, on se trouve dans des situations inconfortables comme celle-là. Puis là, je vais citer notre pasteur, parce que je n'étais pas là au moment où il a fait la prédication sur le sujet, mais j'ai lu son texte. Et il disait, au fond, une église vivante, où personne... C'est une église où personne est supposé être confortable. Pourtant, si c'est Jésus qui nous y a appelés, on peut découvrir cette joie profonde de se savoir à notre place. Non pas parce que je suis confortable, mais parce que je travaille avec Christ pour accueillir mes frères à la gloire de Dieu. Et je trouve ça particulièrement profond. On est à notre place parce qu'on est en train d'accomplir la mission que le Seigneur nous donne, parce qu'on est en train d'exposer ou d'exprimer les dons que le Seigneur nous donne. Pas parce qu'on se sent commode nécessairement, confortable. Mais si on fait une rétrospection de nos vies, hein, on va souvent voir que les bénédictions, les grâces qu'on reçoit du Seigneur viennent après un moment de peur, après un moment de vide, après un moment désagréable. Ne peut pas venir quelque chose de bon s'il est déjà là. C'est cette expérience-là qui nous fait découvrir aussi un contact nouveau, une relation nouvelle avec le Seigneur. On va aller puiser un petit peu dans Romains 14. Parce que dans Romains 14, on parle de ce qui est possible de faire selon la foi. Il y a une loi qui a été bien établie par Acte 10, tout peut être mangé. On peut manger tout ce qu'on veut, il n'y a pas de restriction. Mais il y a encore des gens qui, à cause de leur origine sociale, culturelle, vont se restreindre à certaines choses. Certains chrétiens, qui par conviction chrétienne, seront végétariens, d'autres seront complètement abstinents d'alcool. Et puis, ceux qui voient ça autour, ceux qui ont telle ou telle position en faveur ou contre, peuvent avoir parfois, ou sinon souvent, tendance à juger de l'autre. Moi, quand je voyais des personnes qui refusaient un verre de vin, je me disais, pauvre gars, il est alcoolique, c'est pour ça qu'il refuse. Il a peur. Je l'interprétais comme ça. Donc, il y avait un grave problème dans les années 80 avec les pasteurs chrétiens. Ils étaient tous alcooliques. Aujourd'hui, ils ont réglé leur problème. Maintenant, ils vont prendre un verre avec nous. On juge. On voit un comportement d'ordre moral et on le juge. À tort ou à raison. Plus souvent qu'autrement, à tort. On fait des tautologies. Hein? On amalgame. Là, il est question de ça. Et puis, le texte dit, selon Louis II, ici, dans la traduction, « Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. » Formulation un peu étrange, difficile à saisir exactement ce que ça veut dire. Je vais voir dans le texte grec, ça ne m'aide pas beaucoup parce que mon grec est limité. Je vais voir des traductions. Les traductions françaises ne m'aident pas beaucoup. J'ai trouvé quelque chose dans une traduction en espagnol. « Si tu fais quelque chose que tu crois être mal, tu commets donc un péché. » Donc, ce qu'on ressent par rapport à quelque chose est une norme à suivre pour distinguer ce qui est péché de ce qui est bien. Évidemment, selon le contexte culturel dans lequel on se trouve, les choses vont changer. Certains vont dire, oui, mais là, tu es en train de dire que tout est subjectif, que finalement, de toi dépend si quelque chose est péché ou non. Par exemple, si pour moi, est de bien obéir la parole de Dieu est juste et qu'il faut réprimander et corriger tous ceux qui ne respectent pas ce que j'en ai compris, c'est correct de corriger. Moi, pour moi, ça fait partie de ma foi de corriger physiquement ceux qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ça peut en venir jusque-là. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire ici. Il y a une autocritique à avoir là-dedans. Parce que pour savoir si quelque chose, pour avoir la conception d'une chose, mal ou bonne, on l'a d'abord prié et on l'a mis dans notre relation intime avec le Seigneur. Et là, évidemment, même après avoir fait ça, il va y avoir des dissensions. Par exemple, sur les aliments qu'on consomme, sur les jours de culte, par exemple, sur ce qu'on doit faire pour être un bon chrétien. Certains vont tenir ferme sur le fait qu'il faut absolument donner la dîme, sinon, il manque quelque chose. Je n'exige pas des autres, je l'exige de moi-même, tout simplement. D'autres vont dire, lui est tellement exagéré. Bon, OK, ça c'est autre chose. Si pour quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de mal en soi, qui fait un effort pour donner à Dieu, mais qui pour des raisons X, qui ne sont pas, qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas les miennes, mais qui font partie de la relation interpersonnelle entre Dieu et lui, ça, c'est à lui de choisir. Ce n'est pas à moi de décider de ce qui est bon ou mauvais pour lui. C'est au Seigneur. Je peux exprimer des opinions respectueuses, mais ce n'est pas à moi qu'appartient le fait de corriger, de réprimander. C'est au Seigneur. Quand on vit ensemble, on a des situations comme ça, inconfortables, où les gens vont faire des choses qui ne nous plaisent pas nécessairement d'emblée, qu'on ne trouve pas tout à fait correct, juste ou dans le sens du Seigneur. Mais bon. Sauf qu'il n'y a pas juste une façon d'agir en faveur du Seigneur. Beaucoup disaient, au temps du puritanisme, que tous ceux qui faisaient du brouhaha, c'est-à-dire de la musique, ça, c'était contre l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, on va considérer que les gens qui font de la musique ont le don de louange. On n'a pas à condamner ça. Il faut l'utiliser comme don. C'est comme ça qu'on va le comprendre. Ça fait partie de la vie de l'Église. Ça complémente tout ce qu'il y a comme variété. C'est dans ce sens-là qu'on est appelé à se regarder puis à se dire, oui, ils mettent bien de l'insistance là-dessus, mais il y a quelque chose de bon là. Moi, je peux apprendre quelque chose de ça aussi. Parce que finalement, souvent, dans ce cas-là, là, pour parler pour moi-même, une réaction comme ça, c'est parce qu'on n'a pas le don et on n'a pas cette sensibilité-là. Quand le talent n'y est pas, il y a d'autres choses. Mais d'autres peuvent l'avoir et d'autres y contribuent. Et ça nous aide justement à former une église. Regardez par exemple la complémentarité de style de louange qu'on a ici dans l'église. C'est une richesse extraordinaire. Si on voulait vivre dans une église confortable qui se dit non, c'est qu'un hymne doit se jouer avec de l'orgue, c'est parce que j'entends ça dans des églises réformées, et ça, ils ne disent pas comme ça, mais concrètement, ça veut dire que ça n'a jamais été composé après 1850, c'est ça, des louanges. Non, il y a d'autres choses aussi. Il y a des gens qui font autre chose, qui peuvent nous enrichir, qui arrivent avec un autre vocabulaire, une autre façon de faire, qui vont nous sensibiliser à d'autres réalités qu'on nie ou qu'on a moins expérimenté ici. C'est certain que selon les cultures, selon les préoccupations, selon les individus, selon les milieux sociaux dans lesquels on a grandi, les préoccupations vont être différentes. Il y avait une blague justement là-dessus d'un jeune qui commence dans la vie puis qui va voir un prêtre pour se confesser, pour avoir un entretien spirituel. Puis le prêtre lui dit, « Si je te donne le choix, mon petit gars, entre la sagesse et l'argent, qu'est-ce que tu vas choisir? » Il dit, « Mon père, je vais choisir l'argent. » Le père lui dit, « Non, regarde, tu n'as pas compris, je pense. Regarde, moi, si on me demande ça, je vais choisir la sagesse. » Puis le petit gars, il dit, « Bien sûr, je comprends. Chacun veut ce qu'il n'a pas. » Là, c'est présenté à la blague, mais il y a de ça aussi. On va chercher, nous, ce qui nous manque. On va regarder vers ce qui nous manque, vers ce qu'on juge qui nous manque. Et c'est toujours la découverte que Jésus, que Christ, que Dieu est celui qui pourvoit à nous, qui va faire en sorte, et comment il va pourvoir? Il va pourvoir dans nos différences. Mes manques, je les trouve chez d'autres. Et on peut construire le corps du Christ dans la mesure où je le reconnais chez les autres, même si ça m'agace a priori, j'ai quelque chose à en retirer. Quand on se rend compte en différentes cultures dans une société, en différentes cultures dans une église, en différentes cultures dans un couple, c'est le pain quotidien. Et puis on voit avec le temps qu'on se laisse influencer aussi par l'autre. Pas en tout, pas sur tout, et il ne faut pas, parce que la règle numéro un du respect, c'est respecter ce que l'autre est, et l'autre, comme chrétien, aussi respecte ce qu'on est. Donc, on construit quelque chose de neuf. Mais l'autre déteint sur nous, les autres déteignent sur nous, et on devient aussi un peu ça, ce que l'autre est. Et on le voit quand on va avec ceux qui, avant, nous faisaient sentir confortables. On devient maintenant avec eux inconfortables. Mais il y a une chose certaine, et c'est probablement une des grandes causes de cet inconfort-là qu'on peut vivre, c'est que le Seigneur, pour savoir ce qui est juste et pour savoir ce qu'on doit faire, il s'en remet à notre subjectivité. Et là, c'est pas, je ne le dis pas dans un sens relativiste où chacun décide de ce qui est bon pour lui. Non. Il y a un absolu. Un absolu que moi, je ne peux pas posséder, que moi, je ne peux pas comprendre dans sa totalité. Le Seigneur me demande d'accomplir une fonction. Quand un entraîneur envoie ses joueurs sur un terrain de baseball, il va demander à personne d'être à la fois receveur, lanceur et voltigeur, puis de frapper aussi. Ça n'a pas de sens. L'équipe repose sur le fait qu'il y a plusieurs positions et chacun doit respecter son mandat et bien faire ce qu'il a à faire. C'est certain que le champ gauche va trouver qu'il y a moins de chances de briller que le lanceur. Il a moins de chances aussi d'avoir de l'air fou que le lanceur. C'est son rôle. Et on assume ça en Église. Chacun a son rôle et la subjectivité vient de là. On va interpréter ce que le Seigneur nous dit, on va recevoir ce que le Seigneur nous dit selon les dons qu'on a reçus, selon les capacités qu'on a, selon les capacités émotives aussi que le Seigneur développe en nous. Et il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne façon de le faire. Il y a juste des façons différentes de le faire et c'est grâce à ça, cette subjectivité-là, dans la réception de ce que le Seigneur nous demande, qu'on a une Église florissante et variée. Parce qu'il n'y a pas de communion s'il n'y a pas de pluralité. Quand il y a une uniformité, on peut parler d'unité, mais on ne peut pas parler de communion. La commune union des personnes est dans la mesure où il y a une pluralité, une diversité de réalités, une diversité d'individus qui vont entrer en commune union ensemble. Et c'est à l'image de la Trinité elle-même. Donc, on cherche, pour comprendre ce que le Seigneur nous dit, on cherche cette vérité-là pour nous dans la prière et le discernement. On ne peut plus maintenant être fixé dans une position fixe. C'est inconfortable, mais c'est comme ça, parce qu'on va se changer. Le Seigneur nous change. On va avoir de l'air parfois un peu girouette, on change d'idée, on se laisse imprégner par le Seigneur. Mais il y a toujours ce respect-là aussi, en considérant ces différences-là, il faut toujours insister sur le respect de ce que l'autre est et le respect de nous-mêmes. Parfois, comme chrétien, on peut avoir cette tendance-là à vouloir respecter tout le monde. Et on oublie un peu ce qu'on est, comme culture, comme façon de faire. C'est aussi valable. Et puis, si on n'est pas ferme, dans un certain sens, quand je dis ferme, là, je ne veux pas dire entêté, mais si on n'affirme pas ce qu'on est culturellement, comme peuple, comme réalité de pratique religieuse, par exemple, dans nos louanges, on empêche l'autre de s'ouvrir à quelque chose. Nous, on a la richesse de pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais si on n'affirme pas ce qu'on est, on enlève la possibilité à l'autre, à notre frère, de s'ouvrir à quelque chose d'autre. Et c'est pas vraiment évangélisateur comme attitude. Une attitude évangélisatrice demande une bidirectionnalité. Donc, il faut être bien campé, flexible, ouvert, et comme ça on peut l'être mutuellement. Si on ne se campe pas dans ce qu'on est, dans notre propre identité, on ne permet pas à l'autre de s'ouvrir à ce que nous sommes, parce qu'on s'y plie tout simplement. Une relation vraiment en communion, où l'esprit agit, c'est quand il y a une circulation de cette ouverture, de cet amour, de cet accueil mutuel-là. Il y a toujours des choses bon, qui vont rester inconfortables. On n'éliminera pas cet inconfort-là. Mais il y a quelques points ici pour conclure. Je pense qu'on peut mettre de l'avant pour faire en sorte qu'il y ait une communion, une harmonie dans une communauté qui deal, pour le dire en bon français, avec l'inconfort. D'abord, c'est chercher à comprendre les positions de l'autre sans juger. Ce que Jésus fait quand il arrive dans ce village de Samarie. Lui, il a lu les Écritures, lui, il a lu Deux Rois. J'ai le passage ici. Deux Rois 17, 24, 29. Lui, il a lu ça, lui, il sait c'est quoi. Il sait ce qu'il y a là. Il comprend ce qui s'est passé avec le peuple de Samarie. Il ne le juge pas. Ne les condamnez pas. Aussi, ce qu'il faut pour maintenir cette harmonie-là, pour dealer avec cet inconfort-là, c'est faire comprendre nos positions sans chercher à convaincre. Moi, je pense telle chose. Et je ne dis pas que tu devrais faire exactement la même chose. C'est un peu compliqué quand même, des fois. Parce que si on a une conviction, c'est parce qu'on pense qu'on a raison de l'avoir, sinon on en aurait une autre, tout simplement. Et là, il y a toute une bataille interne à mener. Il faut accepter de remettre et d'être remis constamment en question. Ça, c'est le troisième point. Accepter de remettre en question et d'être remis en question. Accepter d'être remis en question, ça ne veut pas dire, là, ouais, ben là, regardez, c'est pas bon votre musique, recommencez plus ça, là, le monde n'aime pas ça. Non. Est-ce qu'on pourrait apporter un autre style à ça? Est-ce qu'on pourrait donner plus d'importance à ce que vous faites? Poser des questions. Est-ce que ça vaudrait la peine de laisser plus de temps aux louanges? On remet des choses en question. On les discute ensemble. Bon, c'est un exemple comme ça en l'air. J'ai aucune critique à porter sur les louanges, bien au contraire. C'est l'exemple le plus facile, peut-être. Mais de pouvoir se remettre en question et aussi remettre les choses en question et accueillir la remise en question, évidemment, c'est inconfortable, mais pas comme étant une accusation, pas comme étant quelque chose qui nous exclut ou qui nous divise, mais comme étant le pas, comme toute situation inconfortable, qui nous permet justement de nous mettre en déséquilibre pour qu'on puisse continuer à avancer. Et vraiment de le comprendre dans cet esprit-là. Quand on formule une critique sur quelque chose dans l'Église, quand on reçoit une critique sur quelque chose dans l'Église, de l'utiliser, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec ma façon de faire, avec la façon de faire des autres? Comment on va concevoir notre Église? Et là, c'est là que la créativité du Seigneur agit. Parce qu'on s'est mis en position de déséquilibre, on s'est ouvert, on n'a pas essayé de défendre une position à la vie, à la mort. Non, on s'est ouvert, OK, il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'on va revenir sur ce que je pensais avant. Peut-être que j'aurai l'occasion de dire et qu'il faudra éviter, j'avais donc raison. Mais on se sera posé la question. On aura donné une chance à l'Esprit d'entrer en nous, d'envahir nos cœurs puis de s'ouvrir aux autres. Et là, il y a une proposition à ça. Le Seigneur ne le fait pas pour rien. On se prête au jeu. Mais c'est des situations, évidemment, mettre ça en pratique, c'est très inconfortable, mais l'Esprit se met à bouger en nous à ce moment-là. Et la grâce, à partir de ce moment-là, c'est là que la grâce se déverse. Quand on dit Seigneur, devant ce désemparement-là qu'on ressent, devant cet inconfort-là qu'on ressent, Seigneur, fais donc quelque chose, je m'en remets à toi, je ne peux plus rien faire face à ça. La grâce se déverse, la grâce nous envahit, et c'est là qu'il y a des choses miraculeuses qui se passent. Amen.